Maintenant, ce qu'on peut dire sur la fiscalité, avant de venir dans le vif du sujet, et le vif du sujet, je l'aborde de la manière suivante. Je préfère détricoter un certain nombre d'idées reçues, parce que ça permet d'aborder des notions, de voir les tendances, et de voir un peu les enjeux du moment, qu'est-ce qu'il y a sur la place publique en matière de proposition fiscale. Mais avant tout, non pas un cours de droit fiscal, mais juste quelques notions générales pour voir ce qu'on a dans le paysage de la fiscalité. La fiscalité va chercher, ça a été rappelé dans l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à tenir compte des facultés de chacun. C'est quoi les facultés? C'est les richesses que l'on perçoit, que l'on détient, qu'on transmet, etc. Ça veut donc dire qu'on va essayer de regarder quel est l'état de richesse, de revenus, de patrimoine des contribuables, qu'ils soient des particuliers ou des entreprises. Ça veut donc dire qu'on va s'intéresser aux différents circuits de richesse dans un contexte, comment dire, macroéconomique qu'on peut situer ainsi. Dans la circulation des richesses, on distingue théoriquement trois étapes: la distribution primaire des revenus, c'est-à-dire les salaires qui sont versés, la redistribution par la fiscalité, c'est-à-dire dans quel état se trouve la richesse une fois que c'est passé par la monnaie de la fiscalité, et puis ensuite, il y a ce qu'on peut nommer la redistribution sociale sous forme de services publics, etc. Alors, on va peut-être faire des allers-retours entre les trois étapes, mais je vais surtout me concentrer sur la deuxième. Et comment on fait pour essayer de tenir compte de la faculté des contribuables? Eh bien, on regarde quelles sont les sources de richesse. Et bien, pour un particulier, c'est essentiellement du revenu. Il s'agit du revenu d'activité, du revenu de remplacement, du revenu de patrimoine. Pour une entreprise, c'est du bénéfice. Pour les deux, ça peut être aussi du patrimoine qui est détenu, qui est une source de richesse. Et puis, ensuite, il y a l'utilisation de cette richesse sous forme de dépenses. Et finalement, on s'aperçoit que là, on a déjà brossé l'ensemble des opérations que la fiscalité impose. Et elle les impose, ces opérations, à différentes étapes, ce qui permet de répartir la charge fiscale sur un grand nombre d'agents économiques, des particuliers, des entreprises, ce qui permet également d'imposer tous ces agents économiques à différents moments, au moment de la perception du revenu, au moment de l'utilisation du revenu à la consommation, au moment du stockage du revenu sous forme d'épargne, de patrimoine, etc. Et normalement, le fait d'avoir un système fiscal qui va imposer toutes ces opérations-là pourrait être juste et permet d'éviter que l'on fasse supporter toute la charge fiscale à une catégorie de contribuables ou à une opération particulière. Là encore, sans faire beaucoup de discours, mais il y a encore une fois historiquement de nombreux économistes qui ont pensé qu'il fallait instaurer un impôt unique. C'est une vieille lubie. Pourquoi pas, après tout, sauf que on a du mal économiquement à se mettre d'accord sur une assiette unique qui soit à la fois juste et rentable. Si vous faites supporter toute la charge fiscale à une opération, vous avez un risque d'effondrement des recettes fiscales parce que la charge peut être trop lourde, et finalement un risque d'inéquité dans le sens où des personnes qui seraient par exemple imposées au travers de leur revenu, eh bien, supporteraient donc un impôt sur le revenu, mais si vous n'imposez pas les autres formes de richesse comme le patrimoine, évidemment vous avez quelque chose de profondément inégalitaire. Et donc, en France comme ailleurs, tous les systèmes fiscaux ont été bâtis autour de ce qu'on appelle plusieurs assiettes. Enfin, c'est le terme fiscal, assiette, les revenus, le bénéfice, le patrimoine détenu, le patrimoine transmis, la dépense, la consommation, etc. Voilà, il faut retenir ça parce qu'on va retrouver tout au long de la soirée des notions patrimoine, revenu, bénéfice. Donc, il faut voir simplement que derrière cela, il y a souvent évidemment un prélèvement. Et des prélèvements qui peuvent prendre diverses formes. Alors, quelles formes ils peuvent prendre? Ils peuvent prendre la forme d'impôts directs. Le moyen mnémotechnique, il faut se rappeler ce que c'est qu'un impôt direct, c'est un impôt qui s'adresse directement à vous en tant que contribuable donné et identifié. Monsieur Martin va payer en tant que Monsieur Martin. Il va payer en fonction de, par exemple, de ses revenus. C'est le cas de l'impôt sur le revenu, un impôt direct. La société Veolia va payer en tant que société Veolia sur les bénéfices qu'elle réalise. Donc, c'est l'impôt sur les sociétés. A contrario, vous avez aussi les impôts locaux hein, qui s'adressent directement à vous. Et a contrario, vous avez des impôts indirects qui ne vous connaissent pas, qui connaissent juste l'opération que vous faites, en clair la dépense. C'est le cas de la TVA. Monsieur Martin, lorsqu'il va acheter pour 12 euros de biens, la TVA ne le connaît pas, par contre, elle connaît bien les 12 euros, elle en prend deux. Voilà. C'est un impôt indirect, qui s'adresse indirectement à Monsieur Martin. J'essaie de formaliser comme ça parce que c'est encore le chemin le plus court pour comprendre la distinguo entre les impôts directs et indirects. Si on creuse un petit peu, ils n'ont pas tous la même architecture, ces impôts-là. Vous avez, dans les impôts directs notamment, la capacité de bâtir des impôts qui peuvent, par exemple, mettre davantage à contribution les plus riches que les plus pauvres. Comment on fait ça? Par ce qu'on appelle la progressivité. Donc, notamment évidemment, la progressivité de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur le patrimoine. La progressivité, c'est quoi? C'est un barème d'imposition qui va faire en sorte que les plus pauvres ne vont rien payer, les classes moyennes vont payer peu, et puis plus on gagne, plus la part du revenu qui est imposée est importante. Enfin, plus la part du revenu qui donne lieu à perception d'impôt est importante. Et ça permet quoi? Ça permet de faire en sorte que les plus pauvres, leur revenu est vital pour survivre, consommer, se loger, se nourrir, etc. Ça permet de leur laisser tout le revenu. Mais au fur et à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie des revenus, bien finalement se développe ce qu'on appelle la propension à épargner. C'est-à-dire que vous êtes pauvre, vous consommez tout vos revenus, vous avez une classe moyenne, vous épargnez un petit peu, vous êtes parmi les très riches, vous épargnez beaucoup. Donc vous pouvez supporter sur votre revenu un taux d'imposition important, de toute façon il va vous en rester beaucoup. Et ce qu'on va prendre, c'est un peu du superflu. Ça ne va pas affecter votre capacité de survie. Et pour mettre en musique un peu tous ces principes-là, on a bâti l'impôt sur le revenu progressif avec un système par tranche, sur lequel on va revenir également, mais qui permet de corriger les inégalités. Avant impôt sur le revenu, il y a des inégalités importantes. En théorie, après impôt sur le revenu, les inégalités sont réduites parce que les riches contribuent davantage. Et les impôts progressifs, il y en a très peu en France, hein, il y a l'impôt sur le revenu, et puis il y a aussi, j'allais dire, feu l'ISF, il en reste encore un petit peu. Enfin bon, voilà, l'ISF, dans une moindre mesure, les droits sur les donations, les successions. Et ce qu'il faut voir, c'est simplement que ce barème-là a été construit, non pas sur une logique sociale de dire c'est plus juste, ce serait bien qu'il y ait moins d'inégalités, enfin, ça a existé bien sûr, mais aussi sur une logique économique qu'on rappelle assez trop rarement. La logique économique, c'est quoi? C'est que, finalement, ce qu'on appelle la théorie de l'utilité marginale décroissante des revenus. Moi, je résume ça en plus on gagne, moins ça sert. Voilà. C'est quand même plus simple comme ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut taxer le superflu, d'autant plus que ce superflu, s'il donne une épargne à placement, il alimente la rente, et on sait que la rente, économiquement, est contre-productive. Keynes, qui n'était quand même pas un révolutionnaire, disait qu'il faut euthanasier les rentiers. Moi, je suis plus modéré, je dirais, commençons par euthanasier la rente, en tant qu'accumulation des richesses improductives, et ce sera déjà une bonne chose, mais il y a une logique économique derrière le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Je reste sur le plan théorique, je vais vous dire ensuite comment il a été construit. Hein. Mais il y a une logique économique, ce n'est pas simplement de la générosité sociale, il y a une vraie logique économique derrière les barèmes progressifs. Ça, c'est pour les impôts progressifs, puis vous avez les impôts qui sont proportionnels. Par exemple, la TVA. La TVA, au taux normal, là, tout le monde paye 19,6. Que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, tout le monde paye 19,6. Reprends mon exemple, vous achetez 12 euros quelque chose, la personne au niveau social va payer 2 euros et les habitants en cours va payer 2 euros. Donc là, de ce fait, la TVA ne tient pas compte des facultés, et donc ne tient pas compte de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors ensuite, on va y revenir à rôle de la TVA également, mais voilà. Ça permet comme ça déjà de distinguer, il y a des impôts qui sont progressifs, directs, des indirects, etc. Permet déjà de situer que grâce de tous les impôts, c'est pour vous donner quelques familles d'impôts et pour vous dire ensuite, pour vous expliquer en quoi et pourquoi cela, certains impôts étaient plus attaqués que d'autres. Donc, on a un paysage fiscal qui peut paraître complexe, qui répond quand même à une logique, c'est que comme il y a plusieurs sources de richesse, comme il y a une diversité des situations, eh bien, les impôts se sont adaptés à cette réalité économique et ont essayé, théoriquement, d'imposer chacun selon ses richesses. Bon, voilà pour l'aspect théorique, mais ça permettra évidemment de derrière de mieux percuter sur les mouvements de certains impôts.